Le dimanche 15 octobre 2023, de 15h à 16h30, le théâtre de la Halle au Blé à la Flèche accueillera la 17e édition d'un dimanche avec la bibliothèque, un rendez-vous piloté par la sympathique équipe de la bibliothèque Jacques Thermot de la Flèche et de son efficace, que dis-je, de son très entreprenante, très intelligente, très dynamique responsable Frédéric Rowe. Pourquoi s'avance-t-il autant le journaliste, vous dites-vous? Eh bien, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est le nom de l'invité de ce nouveau rendez-vous d'un dimanche à la bibliothèque, puisqu'il s'agit de l'auteur de « La valeur des personnes, preuve et épreuve de la grandeur » paru aux éditions Gallimard. Bonjour Nathalie Hennick.
Bonjour.
Sociologue au CNRS, vous avez publié une quarantaine d'ouvrages sur le statut d'artiste et d'auteur, les identités en crise, l'histoire de la sociologie et les valeurs. La première question, pourquoi avoir accepté de venir à la Flèche le 15 octobre 2023? Est-ce grâce à l'entregent de Madame Rowe?
Ah oui, bien sûr, c'est elle qui m'a sollicité et je suis toujours très attentive à deux choses. La première, c'est le soin que j'apporte au devenir de mes livres. Vous savez, les auteurs sont un peu comme des mères ou des pères par rapport à leurs enfants. Ils ont envie qu'ils aient le meilleur avenir possible. Et voilà, j'aimerais que ce livre soit lu. Et comme tous les auteurs, hein, ils veulent que leur livre soit lu. Et donc voilà, je suis toujours très très disponible pour en parler lorsqu'on me le demande. La deuxième raison, c'est que je suis aussi très contente d'en parler pour des gens qui ne sont pas à Paris, qui sont en province, qui ont eux aussi envie et besoin d'ouverture culturelle, d'ouverture intellectuelle. Et moi-même étant d'origine provinciale, a priori, je suis toujours très disponible quand je peux, quand j'ai le temps, pour parler avec des lecteurs, des auditeurs en province.
Merci pour cette attention. Alors je précise juste avant de commencer que La valeur des personnes, preuve et épreuve de la grandeur a reçu le prix La Bruyère de philosophie morale de l'Académie française. Bravo à vous. Alors la thèse principale de ce livre, quelle est-elle et comment l'avez-vous élaborée et d'où vous est venue l'idée d'écrire sur cette thématique?
Alors l'idée m'est venue d'un précédent livre que j'avais publié en 2017 dans la même collection chez Gallimard, qui s'intitulait « Des valeurs, une approche sociologique » et qui essayait de donner une sorte de colonne vertébrale à la notion de valeur, qui est une notion à la fois très utilisée et assez mystérieuse, parce que finalement on ne sait pas très bien de quoi il s'agit et parce que les sciences sociales elles-mêmes sont très divisées sur la définition et l'usage du mot de valeur. Et à partir de ce premier livre consacré à la notion de valeur, je m'étais dit que finalement, on attribue de la valeur à des choses, hein, c'est ce dont l'économie s'est beaucoup occupée, on en attribue aux actions des personnes, et là il y a aussi des travaux en sciences sociales sur cette question-là, on l'attribue aussi à ce qu'on peut appeler des états du monde, comme la paix, la démocratie, etc. Et quatrièmement, on attribue de la valeur aux personnes. Et nous passons nos journées à faire des jugements de valeur hein, sur nos proches, sur les politiques qui nous gouvernent, sur les journalistes, etc. Bon, on passe notre temps hein, à faire des jugements de valeur. Et finalement, la sociologie ne s'est jamais vraiment intéressée à la façon dont ces jugements de valeur sont produits et aux règles implicites qui font que nous pouvons ou pas nous permettre de dire de quelqu'un « Ah, ben, il est intelligent, ah, il est ci, il est ça », selon les contextes. Et donc, j'ai voulu mettre en évidence ces règles implicites qui gouvernent la valeur des personnes, l'attribution de valeur aux personnes.
Parce qu'il y a de véritables enjeux à ces valeurs qu'on attribue aux personnes.
Oui, il y a des enjeux importants. D'abord parce que celui qui attribue ou pas de la valeur à quelqu'un via un jugement sur les mots qu'il prononce, sur la façon dont il est habillé, sur ses comportements, etc., va lui-même devoir rendre compte de la qualité de son jugement, par la personne elle-même hein, qui se trouve évaluée et qui peut ne pas être d'accord, ou au contraire en être très contente, soit par les témoins de cette évaluation qui peuvent dire à l'évaluateur, mais enfin, tu dis n'importe quoi, ou au contraire, oui, tu as tout à fait raison. Donc, il y a un enjeu de consensus, un enjeu de reconnaissance hein, de la qualité de l'évaluation, et puis aussi parce que toute forme d'évaluation, donc d'attribution de valeur aux personnes, inscrit la personne en question dans une hiérarchie. Elle va être considérée comme plus ou moins crédible, plus ou moins belle, plus ou moins sympathique, etc. Et tout cela concourt à la soit à la création d'hiérarchies, soit à la confirmation des hiérarchies. Et donc, notre vie sociale est complètement faite de ces hiérarchies qui sont multiples, hein, je l'explique dans le livre. Et donc, toute forme d'attribution de valeur aux personnes est une forme de production ordinaire d'inégalités. Et c'est cette production ordinaire des inégalités par les jugements de valeur sur les personnes que j'ai essayé d'explorer.
Donc en creux, ce que je viens de faire là par rapport à Frédéric Roux, ça pourrait m'attirer des problèmes et pourrait s'en offusquer, puisque je disais entre autres qu'elle était entreprenante, intelligente, dynamique. C'est le fruit de mon analyse personnelle et ça, vous dites que ça peut être source d'incompréhension ?
Alors, ça peut être source d'incompréhension, par exemple, par d'autres personnes qui pourraient trouver que le compliment est exagéré, hein, c'est une possibilité. Ça peut être, au contraire, source de satisfaction et de reconnaissance par l'intéressée elle-même, mais il faut surtout prendre en compte le contexte, parce que vous dites ça à la radio, donc dans un contexte totalement public, extrêmement public, et donc vous prenez évidemment plus de risques que si vous le disiez en tête à tête, où là, ça n'aurait pas énormément d'incidence. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que tout jugement de valeur est constitué de trois dimensions, l'évaluateur, la personne évaluée et le contexte d'évaluation. Et on ne peut pas comprendre la logique, la grammaire implicite de ces évaluations si on ne prend pas en compte le contexte. Et ça, c'est fondamental.
Et justement, ce qui est fondamental tout autant, c'est le lien social qui se trouve impacté par cette propension que nous avons à émettre des jugements de valeur.
Oui, alors c'est très important puisque tout jugement de valeur inclut évidemment, outre l'évaluateur, l'évalué et le contexte, les témoins de l'évaluation hein, qui vont être d'accord ou pas d'accord, etc. Et surtout, la création de hiérarchie par cette production ordinaire des inégalités va risquer de créer des tensions, hein, puisque les inégalités sont source de tensions. Et nous passons aussi beaucoup de temps, sans trop nous en apercevoir, à essayer de gérer, comme selon l'expression que j'ai utilisée dans le livre, gérer les tensions hiérarchiques créées par les inégalités, par exemple en minimisant les compliments. Hein, quand on vous fait un compliment, normalement, vous devez dire mais non, voilà, c'est pas moi, c'est grâce à un tel, etc. Bon, ou bien vous exagérez, bon, voilà. Donc en minimisant l'écart de grandeur, hein, ou bien en essayant de brider la vanité, hein, normalement, on n'a pas à dire soi-même je suis extrêmement compétent, extrêmement entreprenant, extrêmement efficace, hein, c'est aux autres de nous le dire si nous voulons éviter cette accusation de vanité, c'est-à-dire une accusation qui nous accuse de maximiser l'écart de grandeur avec autrui et donc de maximiser l'inégalité. Et puis une autre façon donc de gérer ces tensions hiérarchiques, ça consiste à limiter l'envie en essayant de construire des dispositifs d'admiration qui permettent d'éviter les effets très très destructifs de l'envie. L'envie, c'est le refus que quelqu'un ait quelque chose que nous ne possédons pas nous-mêmes.
Et cette propension à émettre des jugements de valeur, est-ce que ça a toujours existé ? Comment vous êtes documenté pour écrire votre livre ?
Alors, du point de vue historique, je ne peux pas vous dire à quand ça remonte, mais je pense que c'est constitutif de la vie sociale. Hein, le fait d'avoir un avis sur la qualité de ce qui nous entoure, voilà, j'imagine que c'est constitutif de toute forme d'humanité. Et donc, j'ai fait des petites incursions dans l'histoire, par exemple, en mettant en évidence le fait que sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution française, il était considéré comme normal de juger les gens en fonction non pas de leur qualité personnelle, mais de ce que j'appelle leur qualité statutaire, c'est-à-dire leur appartenance à un collectif, en l'occurrence leur appartenance à une famille. Alors, soit les familles de nobles au sommet de la hiérarchie sociale, soit au contraire des familles de paysans, de manants, d'ouvriers, qui vous inscrivaient de façon quasi définitive dans une certaine position sociale. C'est ce qu'on a encore en Inde, hein, avec les castes, le système des castes, bon, qui a été officiellement supprimé, mais qui malheureusement continue à exister, fait que ben, les gens sont consignés dans le milieu familial où ils sont nés. Et avec la Révolution française, on a complètement modifié cette conception de la valeur des personnes, en considérant que le mérite personnel, la compétence, la façon dont on se conduit individuellement sont des critères de valeur beaucoup plus pertinents que les valeurs statutaires liées à l'appartenance à une catégorie. Et cette tension entre évaluation par les qualités statutaires et ou par les qualités personnelles, est une tension permanente, hein, qui continue à habiter nos jugements de valeur, mais qui, historiquement, en effet, tend à glisser des qualités statutaires aux qualités personnelles. Et j'analyse notamment la recherche du temps perdu de Proust comme une magnifique description de ce glissement du salon Guermantes au salon Verdurin, c'est-à-dire d'un système basé sur le statut à un système basé sur le mérite.
Et j'aimerais que vous reveniez, Nathalie Hennick, sociologue, sur le titre de votre ouvrage, La valeur des personnes, preuve et épreuve de la grandeur. Y a-t-il des épreuves dans la grandeur ?
Oui, il n'y a pas de jugement sur une personne qui tienne, qui soit stable, qui soit consensuelle et donc qui soit efficace, sans être lié à ce qu'on appelle dans la sociologie que je pratique des épreuves, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de changer, de modifier de façon plus ou moins définitive, en tout cas de façon sensible et efficace, le statut d'une personne. Alors ces épreuves, on les connaît bien, hein, ce sont les examens, les concours, les moments de, par exemple, de passage à la télévision, qui est une épreuve, hein, pour quelqu'un. Enfin, il y a toutes sortes d'épreuves, le fait d'intervenir en public aussi, hein, on voit bien quand quelqu'un qui n'est pas habitué à intervenir en public prend la parole, on voit bien à sa gêne qu'il s'agit d'une épreuve. Pourquoi c'est une épreuve ? Ben parce que il sait que sous le regard des gens qui sont là, des témoins, eh bien, il va être jugé sur ses compétences, sur son intelligence, sur sa capacité argumentative, sur son aspect, sur son habillement, etc. Et que bah, ce jugement va lui, comme on dit, coller à la peau, va rester associé à sa personne plus ou moins longtemps et pour plus ou moins grand nombre de personnes. Et c'est donc une épreuve, hein, au sens à la fois de ce qui est problématique, de ce qui est un trouble, de ce qui est un moment de difficulté, mais aussi de ce qui permet de construire un consensus relativement stable sur la place respective des personnes et donc d'une certaine façon de pacifier la vie sociale.
Et aujourd'hui, en très peu de mots, s'il vous plaît, avec l'avènement et l'explosion des réseaux sociaux, est-ce que pour vous, on tient également un sujet en ce qui concerne la hiérarchisation des valeurs ?
Oui, alors c'est évident puisque notamment avec la pratique des likes, hein, on est et là et la comptabilisation du nombre de followers, de suiveurs, on a une sorte d'exacerbation, hein, et d'intensification des jugements de valeur portés sur les personnes dans un temps très court, hein, le temps est très raccourci, c'est un clic, et pour un public très large, hein, voilà. Et donc là, on a vraiment une pratique intensive de l'attribution de valeur qui pose évidemment problème, et on le voit bien dans les les cas de harcèlement. Hein, on en parle beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement, si ce n'est une pratique perverse et systématique de réduction de la valeur de la personne harcelée, et c'est vraiment extrêmement délétère. Et on voit bien à quel point ce que je préfère appeler les ragots sociaux sont un outil redoutable hein, dans ces pratiques-là.
Eh bien, on va terminer sur ces mots, les ragots sociaux, je retiens. Nathalie Hennick, merci beaucoup d'avoir accordé quelques minutes à Radio Prévert. Évidemment que j'avais beaucoup d'autres questions, mais on est déjà rendu à 15 minutes. Et je suis sûr que l'équipe de la bibliothèque Jacques Thermot de La Flèche m'en voudrait si je fais déjà un dimanche à la bibliothèque, à la radio. Ce n'est pas vraiment l'objet, ce serait pour vous d'aller voir le public le dimanche 15 octobre 2023 de 15h à 16h30 dans le magnifique écrin du théâtre de la Halle au Blé à La Flèche. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je rappelle que votre ouvrage « La valeur des personnes, preuve et épreuve de la grandeur » est paru aux éditions Gallimard.